Prologue. Cette comédie raconte un fait réel survenu en 1921 en Amérique. Un anarchiste nommé Salcedo, un émigré italien, passa par la fenêtre du 14e étage du commissariat central de New York. Le chef de la police déclara qu'il s'agissait d'un suicide. Il y eut une première enquête, puis une contre-enquête menée par la magistrature. On découvrit que les policiers avaient littéralement flanqué l'anarchiste par la fenêtre pendant l'interrogatoire. Alors, afin de rendre l'action plus actuelle et donc plus dramatique, nous nous sommes permis de recourir à un stratagème fréquent au théâtre. C'est-à-dire que nous avons transposé toute l'action à notre époque et que nous l'avons située non pas à New York, mais dans une ville italienne quelconque, mais en Milan. En toute bonne logique, pour éviter les anachronismes, nous avons dû appeler commissaire les divers shérifs, préfets de police, questori, les inspecteurs, et ainsi de suite. Ah, encore une remarque. Toute analogie avec des événements et des personnages qui ont défrayé la chronique de notre temps serait à imputer à la subtile magie dont le théâtre est coutumier, et par l'effet de laquelle, si souvent, même des histoires un peu folles, complètement inventées, se sont trouvées impunément copiées par la réalité. Premier temps. Une pièce quelconque de la préfecture de police. Un bureau, une armoire, quelques chaises, une machine à écrire, un téléphone, une fenêtre de porte. Le commissaire feuillette des dossiers en s'adressant à un prévenu tranquillement assis.
Ah, ce n'est donc pas la première fois que tu te déguises. Je vois ici que tu t'es fait passer deux fois pour chirurgien. Une fois pour capitaine des Bersaliers. Évêque, trois fois, tiens donc. Ingénieur naval, une fois. Tu as été arrêté en tout voyant un peu. 3 et 2, 5, 1, 3, 2, 11 fois en tout. Cette fois, c'est la 12e. La plainte déposée contre toi dit que tu t'es fait passer pour psychiatre. Professeur Antonio Rabi, ancien chargé d'enseignement à l'université de Padoue. Tu sais ce que ça vaut, l'usurpation de titre ?
Oui, l'usurpation de titre commise par un homme sain d'esprit, mais moi, je suis fou, fou breveté. Regardez mon dossier médical, j'ai déjà été interné 16 fois. Toujours pour le même motif, j'ai l'obsession du théâtre, cela s'appelle l'histriomanie, du latin histriones qui veut dire acteur. J'ai en quelque sorte pour hobby d'interpréter des rôles, et toujours différents. Mais comme je suis partisan du théâtre vérité, il me faut des comédiens pris dans la réalité qui ne savent pas qu'ils font du théâtre. D'ailleurs, je n'ai pas de moyens, je ne pourrais pas les payer. J'ai demandé des subventions au ministère de la Culture, mais comme je n'ai pas de relations politiques... Et professeur, je le suis vraiment. Professeur de dessin, décoration, dessin libre en tout genre, au cours du soir du Très-Saint.
Très bien, monsieur, félicitations. Mais là, il y a écrit psychiatre.
Oui, parfaitement, oui. Mais après le point, connaissez-vous la syntaxe et la ponctuation ? Faites bien attention. Prof Antonio Rabi, un point, vous l'avez vu ? Puis, il y a un P majuscule, psychiatre. Or, notez bien, ce n'est pas usurper un titre que de dire « je suis psychiatre ». On pourrait dire aussi « je suis psychologue, botaniste, végétarien, arthritique ». Connaissez-vous la grammaire et la langue italienne ? Oui ? Ah, alors, vous devez savoir que maître archéologue, c'est un peu comme maître bergamasque. Cela ne signifie pas qu'on ait fait des études.
Bon. Mais ici, il y a écrit « ancien chargé d'enseignement à l'université ».
Oui. Cette fois, je regrette, c'est vous qui usurpez des titres. Vous m'avez dit que vous connaissiez la langue italienne, la syntaxe et la ponctuation. Et voici la preuve que vous ne savez même pas lire correctement.
Mais comment je ne sais pas lire correctement ?
Eh bien, vous n'avez pas vu la virgule après ancien ?
C'est vrai, il y a une virgule, vous avez raison, je n'avais pas fait attention.
Oui, alors... j'ai raison, il n'y avait pas fait attention. Et sous prétexte que vous ne faites pas attention, vous flanquez en tôle un innocent.
Mais vous êtes vraiment fou, ma parole, mais qu'est-ce que ça change, la virgule ?
Rien si on ignore tout de la langue italienne et de la syntaxe.
Bon, écoutez-moi bien, mon petit gars, cessez-vous de payer ma tête parce que je commence à croire que vous êtes vraiment fou, un maniaque du théâtre. Vous êtes en train de jouer le rôle du fou, alors que je suis sûr que vous êtes même pas plus fou que moi.
Qui sait ? Si il est certain que votre métier prédispose à de nombreux troubles psychiques, montrez-moi un peu votre œil.
Bon, tenez-vous tranquille, hein ! Je vous fais passer les menottes maintenant.
Oh, impossible ! La camisole de force ou rien ! Je suis fou ! Et si vous me passez les menottes, article 122 du Code pénal, celui qui, en qualité d'agent de l'État, use envers un malade mental de moyens de coercition non médicaux ou du moins non psychiatriques, provoquant ainsi une crise de sa maladie, commet un délit passible de 5 à 15 ans de prison et perd également ses droits à la retraite et à son grade.
Je vois que tu t'y connais aussi en matière de droit maintenant. Pourtant, ton curriculum ne mentionne pas que tu étais juge ni avocat.
Ah, avocat ? Jamais. Je n'aime pas défendre. C'est un art passif, voyez-vous. Moi, ce que j'aime, c'est juger, condamner, réprimer. Oh, poursuivre. Je suis des vôtres, mon cher commissaire. Tutoyons-nous.
Gare à toi, fou, vas-y doucement avec tes insolences.
Oh, mettons que je n'ai rien dit.
Bon, est-ce que tu t'es fait passer pour juge, oui ou non ?
Je n'en ai malheureusement pas eu l'occasion, encore. Mais j'aimerais. Être juge, c'est le plus beau des métiers. Ah, d'abord, on n'est presque jamais mis à la retraite. Au contraire, au moment où un homme ordinaire, un travailleur quelconque, disons, à 55 ou 60 ans, n'est bon qu'à mettre à la porte parce qu'il devient un peu lent, avec des réflexes à retardement, un juge lui arrive à l'apogée de sa carrière. Pour un ouvrier à la chaîne ou au massicot, après 50 ans, c'est fini. Il provoque des retards, des accidents au rebut. Un mineur de 55 ans, à la silicose, oust, au rebut. On le licencie vite fait, juste avant la retraite. Les juges, eux, pas du tout. C'est même le contraire. Plus ils sont vieux et couillons, affaiblis, oui, plus on les désigne aux charges suprêmes, plus on leur confie des affaires importantes, capitales. Eh bien, ces personnages ont le pouvoir de démolir ou de sauver un homme selon leur bon plaisir. Ils prononcent des condamnations aux travaux forcés comme d'autres disent, il va pleuvoir demain. 50 ans pour toi 30, et pour toi 20 ans seulement, parce que je te trouve sympathique. Ils édictent, légifèrent, jugent, décrètent, et de plus ils sont sacrés. N'oublions pas que, chez nous, dire du mal de la magistrature est encore un crime de lèse-majesté. Chez nous, et en Arabie Saoudite, bien sûr. Oui, vraiment, quel métier, quel personnage. Je donnerais cher pour pouvoir tenir ce rôle au moins une fois dans ma vie. Conseiller à la cour de cassation du rang le plus élevé. Je vous en prie, Excellence. Silence ! Debout. Messieurs, la cour. Oh, regardez, il vient de tomber un os. C'est à vous. Oh non, sûrement pas, je n'en ai plus.
Tu vas me les laisser le rédiger, ton procès verbal, oui ou non, qu'on en finisse. Allez, sois calme maintenant. Ensuite, je te relâcherai.
Oh, non, ne me lâchez pas, monsieur le commissaire. Je me trouve si bien avec vous à la police. Je me sens protégé. Vous voyez, dehors, dans la rue, il y a tant de dangers. Les gens sont méchants. Ils roulent en voiture, ils klaxonnent, ils font couiner leurs freins. Ils se mettent en grève. Il y a les autobus, le métro, avec des voitures à portière automatique et ping, crac, écrasé. Gardez-moi ici auprès de vous, je vous aiderai à faire parler les prévenus. Ah, les subversifs. Je sais faire des suppositoires de nitroglycérine.
Suffit, je te dis, j'en ai marre.
Oh, commissaire, gardez-moi auprès de vous, je me jette par la fenêtre. À quel étage sommes-nous ? Au troisième. Bon, d'accord, c'est à peu près réglementaire. Attention, je saute, hein ! Je saute et quand j'arrive en bas, mourant fracassé sur le pavé, râlant, car j'ai la vie dure et je râle énormément, voilà les journalistes et je leur raconte toujours râlant que c'est vous qui m'avez jeté par la fenêtre. Je saute !
Bon, ça suffit maintenant, ça fait trois fois que je te le dis, hein ! Je me suis jamais laissé entuber par personne, alors sors, va-t'en, hein ! Et jette-toi par la fenêtre si tu veux, par l'escalier où tu veux, à ta guise ! Mais sors ! Je vais en devenir cinglé, moi, si ça continue comme ça !
Oh non, commissaire, vous ne pouvez pas faire ça ! Ne poussez pas ! Je vous en prie, pourquoi voulez-vous me faire descendre ? Ce n'est pas encore mon arrêt.
Dehors !
Il réussit enfin à le faire sortir et referme la porte.
Enfin !
Le commissaire sort. Le fou passe la tête à la porte par où il était sorti.
On peut, commissaire, je vous dérange. Ne vous fâchez pas, je viens seulement reprendre mes papiers. Bah, vous ne me répondez pas. Ah, il n'y a personne. Eh bien ? Oh, mon dossier médical. Ah ! Mon carnet d'ordonnance. Ah ! Voici la plainte déposée. On la déchire et on n'en parle plus. Et celle-là, pour qui est-elle ? Oh, vol qualifié. Tu penses, dans une pharmacie. Oh, ce n'est rien, te voilà libre.
Il déchire.
Et toi, qu'as-tu fait, hein, mon petit ? Oh, appropriation, indue, injure. Oh, des blagues. Va, mon garçon, tu es libre.
Il déchire.
Ah, tous libres. Je brûle tout. Un grand feu de joie. Ah. Instruction en cours, tiens. Ah, ordonnance de clôture d'instruction.
À ce moment, le téléphone retentit. Tranquillement, le fou décroche.
Allô ? Ici le service du commissaire Bertozzo. C'est de la part de qui ? Non, je regrette si vous ne me dites pas de la part de qui. Je ne vous le passerai pas. Ah ! Qui donc ? Le commissaire, vous-même, en personne. Non, vraiment, enchanté. Le commissaire des fenêtres. Non, 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 non. Non, rien du tout, rien du tout. D'où téléphonez-vous ? Oui, bien sûr que je suis bête, du quatrième étage. D'où cela pourrait-il être, bien sûr ? Comment qui je suis ? Hé ! Tu as entendu, Bertozzo ? Il y a la terreur des subversifs au bout du fil qui demande qui je suis ! Ben, devine, mon petit. Tu n'as pas le temps. Oh non, devine. Sinon, je ne te passe pas, Bertozzo. Qui je suis ? Anghiari ? Suis-je Anghiari ? Ah ben oui, 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 tu as deviné. C'est moi, le commissaire Pietro Anghiari. Bravo ! Ce que je fais à Milan. Tu en demandes un peu trop. Dis-moi plutôt ce que tu veux de Bertozzo. Non, il ne peut pas venir au téléphone. Dis-le-moi. Ah, un juge de rang supérieur. Tiens. Envoyé tout exprès de Washington ? Oh, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ce que je veux dire de Rome. J'oublie parfois qu'il faut transposer. Ah, une sorte de réviseur, bien sûr. Oui, 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 c'est évident. Au ministère, on n'est pas d'accord sur les motifs du juge qui a classé l'affaire, tu en es sûr ? Ah, ce ne sont que des on-dit, il me semblait bien, tiens. D'abord, ils sont enchantés, ensuite, ils se ravisent. Ah, ce sera à cause de la pression de l'opinion publique. Ah, oh, tu me fais rire, l'opinion publique, quelle pression. Écoute, Bertozzo est en train de ricaner, et il fait des gestes obscènes. Eh, Bertozzo, notre ami du quatrième étage dit que tu peux te permettre d'en ricaner, toi, parce que tu n'y es pas trempé, toi. Mais pour lui, pour son chef, c'est pire que la gale, hein. Mais non, cette fois, c'est moi qui riais. Non, c'est que je serais ravi si le préfet de police était compromis, tu vois ce que je veux dire. Si, c'est la pure vérité. Bertozzo aussi, il est de mon avis. Prout ! Oh, ne t'énerve pas tant. C'est entendu, tu es un grand ami des préfets de police d'Oustica et de Ventotene. Ce n'est pas une raison pour t'emballer comme ça, mon petit. Entendu, oui, parfait. Nous en reparlerons entre quatre yeux. Oui, oui, j'écoute. Alors, que veux-tu de Bertozzo ? Quel document ? Oui, dicte, je prends note. D'accord, la copie du décret de clôture pour la mort de l'anarchiste, entendu. Les copies, des procès-verbaux aussi, oui, tout est là dans les archives. Et attention, je crois bien, il faut vous en tenir prêt, hein, toi et l'ancien gardien du pénitencier de l'île. Oh, parce que tu sais, si le juge qui doit arriver est seulement la moitié aussi vicelard qu'on dit, comment on le dit ? Ben, à Rome, tiens, j'en viens, non ? On y fait circuler le bruit qu'on vous prépare ce coup-là depuis longtemps. Bien sûr que je connais le juge, il s'appelle Malipiero. Tu n'as jamais entendu ce nom-là ? Eh bien, tu vas l'entendre, crois-moi. C'est un homme qui a passé quelque chose comme 10 ans en déportation. Et demande un peu à ton maître baigneur du pénitencier si par hasard... Non, tout réfléchi, mieux vaut ne pas le lui demander. Il pourrait avoir un coup de sang. Et alors, fini de s'amuser. Oh, comme tu es susceptible, mon cher voisin du quatrième. Pas moyen de rigoler un peu avec cette police renfrognée. D'accord, oui. Nous te ferons porter le tout aussitôt. Au revoir. Hé, attends, Bertozzo vient de dire quelque chose de très spirituel. Il a dit que... Après la visite du réviseur, on t'expédiera dans le sud, à Vibo Valentia de Calabre, où, tu sais, l'immeuble du commissariat n'a qu'un étage et où le bureau du commissaire est sous le sous-sol. Enterré, tu ne trouves pas ça drôle ? Oh, bah, ce sera pour une autre fois, tiens. Bien, oui. Je le lui transmets aussitôt. Bertozzo, le commissaire au bout du fil, celui qui va bientôt devenir calabré, tu sais, dit que la première fois où il nous rencontrera, toi et moi, il nous mettra son poing sur la gueule. Bien, reçu, je transmets. Prout ! De notre part à tous les deux. Coupé !
Le fou pose l'écouteur et se précipite aussitôt à la recherche des documents.
Au travail, monsieur le juge. Oh là là, le temps presse. Ah, quelle occasion de prouver au monde entier et à moi-même que j'ai fait des études approfondies, que je suis l'égal des messieurs des plus hauts grades, infaillibles et sacrés. Jamais, jamais je ne retrouverai une chance pareille. Dieu, que je suis ému. C'est comme si j'allais passer un examen, si j'arrive à les convaincre que je suis un véritable réviseur. S'ils ne bronchent pas, nom d'un chien, quelle consécration ! Mais gare aux défaillances. Voyons un peu. Avant tout, il faut trouver une démarche.
Il en essaie une légèrement claudiquante.
Ah non, c'est celle du greffier. Démarche arthritique, mais pleine de dignité. Voilà, comme ça, avec le cou un peu de travers. Très cheval de cirque à la retraite. Non. Mieux vaut la démarche glissée avec déclic final. Oui, pas mal. Oui. Et celle avec genoux en pudding ? Ou bien peut-être la démarche raide de la sauterelle ?
Il la joue de petits pas alternativement, talon, pointe, talon, pointe.
Ah, les lunettes. Non. Pas de lunettes, une petite toux peut-être ? Non, pas du tout. Pas de tout, un tic. Bon, peut-être, nous verrons sur place éventuellement. Manière mielleuse, voix nasale. Bonasse, avec de brusques éclats en voix de tête.
Non, mon cher préfet, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne dirigez plus un bagne fasciste. Souvenez-vous-en quelquefois.
Non. C'est exactement le type contraire qu'il faut. Froid, détaché, ton péremptoire, voix monocorde, regard triste, un peu myope. Oh, regarde un peu. Sacré nom. Voilà les documents que je cherchais. Et du calme. Du calme, qu'est-ce que c'est que se laisser aller? Prière de rentrer aussitôt dans le personnage, s'il vous plaît. Tout y est? Oui, voyons. Décret de clôture du tribunal de Milan. Ah oui, il y a aussi l'enquête sur les anarchistes du groupe de Rome, avec le danseur en tête. Bien.
À peine le fou a pris au porte-manteau un pardessus sombre et un chapeau noir, le commissaire entre et ne le reconnaît pas dans cet accoutrement. Il reste un moment perplexe.
Bonjour, que voulez-vous, que demandez-vous?
Rien, commissaire, je suis revenu chercher mes papiers.
Commencez-vous encore? Mais c'est pas possible, sortez maintenant!
Oh, je vous en prie, vous avez peut-être de bonnes raisons pour être nerveux, mais pourquoi passer vos nerfs sur moi?
Sortez!
Bon Dieu, vous êtes tous névropathes là-dedans, à commencer par le cinglé qui vous cherche partout, pour vous casser la figure.
Qui est-ce qui me cherche partout?
Je sais pas, un type peut-être, avec un pull vert à col roulé, genre décontracté. Il ne vous a pas encore donné deux coups de poing?
Un coup de poing à moi?
Oui, à vous et à un de vos collègues. Un certain... Comment Angari, non. Angario.
Angari, un commissaire de Rome, de la police politique.
Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi?
Et pourquoi viendra-t-il me donner un coup de poing, ce type décontracté?
Bah, à cause d'un bruit incongru.
Un bruit incongru?
Oui, et même deux au téléphone, avec un ricanement. Vous ne vous rappelez pas?
Et de quoi parlez-vous encore? C'est encore un de vos personnages, c'est ça?
Oui, c'est cela. Vous saurez lequel quand vous recevrez son poing dans l'œil. On ne peut même pas lui donner tort à ce malheureux voisin du quatrième.
À qui?
Ben, votre collègue. Pourquoi aller lui dire que vous espérez bien qu'on l'expédiera en Calabre pour l'enterrer au sous-sol? Ce n'est pas bien. Lui et son chef, l'ex-gardien du camp...
Mais de quoi parlez-vous? Qui donc? Notre préfet de police, c'est lui?
Oui, bien sûr, celui qui dirige et qui vous guide.
Bon, écoutez, maintenant, ça suffit. Vous m'avez assez fait perdre de temps, s'il vous plaît. Allez-vous-en, sortez, va-t'en!
Oh, pour toujours! Oh non! Bon, d'accord, je m'en vais.
La lumière se rallume et nous nous retrouvons dans un bureau semblable au premier. Les meubles sont à peu près les mêmes, seule leur disposition a changé. Sur le mur du fond trône un portrait de bonne taille du président de la République, bien en évidence, l'embrasure d'une fenêtre grande ouverte. Le fou est déjà en scène, debout, planté devant la fenêtre, tournant le dos à la porte par où entre, quelques instants plus tard, un commissaire vêtu d'une veste sport et d'un pull au vert à col roulé. Le commissaire sportif a mi-voix à l'agent qui se tient immobile à côté de la porte.
Qui est-ce?
Je suis le professeur Marco Maria Malipiero, premier conseiller à la Cour de cassation.
Un juge?
Eh bien, bien sûr, ancien chargé d'enseignement à l'Université de Rome, sans oublier la virgule, naturellement.
Je comprends.
Qu'est-ce que vous comprenez?
Non, rien.
Ah, bon. Vous voulez dire que vous ne comprenez rien du tout? Qui vous a informé que je devais arriver pour la révision de l'enquête et de la clôture?
C'est que, en vérité,
Prenez garde à ne pas mentir, mon petit. C'est une chose qui m'irrite terriblement. Moi aussi, j'ai un tic, vous voyez, là, dans le cou? Dès qu'on me raconte des blagues, vous voyez comme ça tremble. Regardez, regardez! Alors, étiez-vous ou non au courant de mon arrivée?
Oui, je l'étais, mais on ne vous attendait pas si tôt, c'est tout. Et...
D'accord. C'est même pour cela que le Conseil supérieur a décidé de prendre les devants. Nous aussi, nous avons nos indicateurs. Nous vous avons pris à contre-pied. Ça vous ennuie?
Vous pensez bien que non. C'est-à-dire... Oui, énormément. Asseyez-vous donc, donnez-moi votre chapeau. À moins que vous ne préfériez le garder.
Pas du tout, gardez-le donc. D'ailleurs, il n'est même pas à moi.
Comment? Voulez-vous que nous fermions la fenêtre?
Absolument pas. Ne vous dérangez pas. Faites plutôt appeler le préfet de police. Je voudrais commencer le plus vite possible.
Tout de suite. Mais ne vaudrait-il pas mieux aller dans son bureau? Il est plus confortable.
Peut-être, peut-être. Mais c'est dans ce bureau-ci, n'est-ce pas, que s'est passée la sale affaire de l'anarchiste?
Oui, c'est ici.
Il s'assied... tire des documents de sa serviette. On voit qu'il a aussi un autre sac énorme dont il tire un tas de bricoles, une loupe, une pince, un grattoir, une masse de justice en bois, un code pénal. Près de la porte, le commissaire parle à voix basse à l'oreille de l'agent.
Je préférerais, commissaire, qu'en ma présence, on parle toujours à haute voix.
Excusez-moi. Priez monsieur le préfet de venir ici au plus vite, s'il peut.
Et même s'il ne peut pas.
Et même s'il ne peut pas.
À vos ordres.
Dites donc, commissaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dois venir vous trouver dans votre bureau même si je ne peux pas?
Non, vous avez raison, monsieur le préfet. C'est que...
C'est que mon œil, vous êtes mon supérieur hiérarchique, peut-être? Je vous préviens que je n'aime pas du tout vos insolences, en particulier envers vos collègues. Vous en êtes au coup de poing dans la figure!
Mais c'est
à
que,
présent...
monsieur le préfet...
Mon cher préfet, je vous parle comme à un père. Ce garçon a besoin d'un bon psychiatre. Tenez, conduisez-le chez un de mes amis. Il est génial.
Il lui met dans la main une carte de visite.
Professeur Antonio Rabi, ancien chargé d'enseignement. Faites bien attention à la virgule.
Oui, merci, mais si vous me permettez...
J'ai assurément, je vous permets, assurément. Faites donc et commençons. À propos, votre collaborateur, vous a-t-il informé que je...
Excusez-moi, je n'en ai pas eu le temps. Professeur Marco Maria Malipiero, le premier conseiller à la Cour de cassation.
Oh, je vous en prie, laissez tomber le premier, je n'y tiens pas. Dites simplement un des premiers, cela me suffit.
Comme vous voudrez.
Excellence, je ne sais vraiment pas...
Monsieur le juge est venu conduire la révision de l'enquête sur le cas...
Oui, bien sûr, nous vous attendions.
Vous voyez la sincérité de votre supérieur hiérarchique, mon petit. Il joue carte sur table, lui, prenez-en de la graine. Venons-en aux faits, voici... Selon les procès-verbaux numéro 25, 26, 27, oui, et 20-tenné. Le soir du... peu importe la date. Un anarchiste de son métier mécanicien au chemin de fer, oui, se trouvait dans cette pièce-ci, donc, pour être interrogé sur son éventuelle participation à l'opération de dynamitage dans les banques, qui avait causé la mort de quelque chose comme 16 citoyens innocents. Voici textuellement vos paroles, monsieur le préfet. Il pesait encore sur son compte des indices graves. C'est bien ce que vous avez dit.
Oui, au début, monsieur le juge, ensuite...
Nous n'en sommes qu'au début, mon petit. Procédons par ordre. Vers minuit, l'anarchiste, pris d'un raptus... Oui, c'est toujours vous, mon cher, qui parlez. Pris d'un raptus, donc, s'est jeté par la fenêtre et s'est fracassé sur le sol. Or, qu'est-ce qu'un raptus ? Bon Dieu dit que le raptus est une forme exacerbée d'angoisse suicidaire qui s'empare d'individus psychologiquement normaux si on provoque chez eux un violent désarroi, une angoisse désespérée. Exact ?
Exact.
Voyons un peu ce qui a provoqué ou qui a provoqué cette angoisse et ce désarroi. Procédons à la reconstitution des faits. C'est à vous d'entrer en scène, monsieur le préfet.
Moi ?
Oui, allez-y, bon Dieu. Voudriez-vous me jouer votre fameuse entrée ?
Pardon, quelle fameuse entrée ?
Eh ben, celle qui a provoqué le raptus.
Monsieur le juge, il doit y avoir confusion. Ce n'est pas moi qui suis entré, c'est un de mes adjoints, un collaborateur.
Oh non, 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 ce n'est pas beau de rejeter la responsabilité sur ses subordonnés, c'est même plutôt vilain. Allons, pour vous racheter, jouez donc votre rôle.
Vous savez, monsieur le juge, il s'agit d'un expédient classique auquel on a recours... dans toutes les polices, simplement pour faire avouer le prévenu.
Oh, on ne vous demande rien à vous, laissez parler votre supérieur hiérarchique, s'il vous plaît. Vous êtes fort mal élevé, mon petit. Dorénavant, ne répondez que si on vous interroge, compris. Et vous, mon cher, je vous en prie, jouez-moi cette entrée à la première personne.
D'accord. Les choses se sont passées à peu près ainsi. Le prévenu se trouvait là, assis exactement où vous êtes. Mon collab... Je veux dire, je suis entré avec une certaine violence.
Bien.
Et je l'ai attaqué.
C'est comme ça que je vous aime.
Voilà, alors, mon cher mécanicien, subversif de surcroît, cesse de te moquer de moi.
Non, 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 s'il vous plaît, tenez-vous-en au texte. Il n'y a pas de censure ici, ce n'est pas ce que vous avez dit.
Ah oui, oui, bon, j'ai dit, j'en ai marre que tu cherches à m'entuber.
Oui, c'est ce que vous avez dit, entuber.
Oui, oui, sur ma parole.
Je vous crois, continuez, la fin de votre tirade.
Nous avons la preuve que c'est toi qui as déposé les bombes à la gare.
Quelle bombe ?
Je parle de l'attentat du 25.
Non, répondez dans les mêmes termes que ce soir-là. Imaginez que je suis le cheminot anarchiste. Allez, courage, quelle bombe ?
Ne fais pas l'innocent, tu sais très bien de quelle bombe je veux parler. Celle que vous avez placée dans des wagons à la gare centrale il y a 8 mois.
En aviez-vous vraiment la preuve ?
Non, mais comme vous l'expliquez tout à l'heure, le commissaire, il s'agit d'une ruse classique à laquelle nous recourons souvent dans la police.
Ah, quel fine gaule. Continuons. Je lis, l'anarchiste ne semblait pas atteint par l'accusation, il avait un sourire incrédule. Qui a fait cette déclaration ?
C'est moi, monsieur le juge.
Ah, très bien. Donc, il souriait. Voici un autre commentaire d'ailleurs. Ce sont vos propres termes, textuellement, cités aussi par le juge qui a classé l'affaire. L'un des facteurs de la crise suicidaire a été incontestablement la crainte de perdre sa place, d'être licencié. Quoi ? D'abord le sourire incrédule, n'est-ce pas ? Et puis tout à coup la peur. Dites-moi qui a chaussé de gros sabots pour lui parler de mise à pied immédiate.
Je vous donne ma parole. En ce qui me concerne, je...
Je vous en prie, n'essayez pas de minimiser. Vous n'êtes sûrement pas deux virtuoses de l'archer, vous deux. Allons donc. Tous les policiers de la Terre y vont au manche de pioche, que c'en est un plaisir. Je ne vois pas pourquoi vous seriez précisément les seuls à prendre des gants. D'ailleurs, c'est bien votre droit. Il ne manquerait plus que cela.
Merci, monsieur le juge.
Oui, pas de quoi. Il arrive toutefois que ce soit dangereux. On dit à un anarchiste... Attention, tes affaires vont mal. Que dira le directeur des chemins de fer quand nous lui apprendrons que tu es un anarchiste ? On te flanquera dehors ? congédié. Et voilà qu'il perd courage. Au fond, ce sont deux petits bourgeois, attachés à leur petite commodité. Un salaire fixe à la fin du mois, une prime. Le 13e mois, la retraite, la sécurité sociale, une vieillesse sereine. Excusez-moi, je parle des anarchistes de chez nous. Naturellement, ces petits pantouflards d'aujourd'hui, rien à voir avec ceux d'autrefois. L'exil de terre en terre, vous vous y connaissez en matière d'exil, monsieur le préfet? Mais qu'est-ce que je raconte? Donc, récapitulons. Vous brisez le moral de l'anarchiste, vous le désespérez, il saute...
Permettez, monsieur le juge, honnêtement, ce n'est pas arrivé tout de suite. Il manque mon intervention.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu le fait que vous êtes d'abord sorti, commissaire, et puis rentrer, oui. Vous avez pris un temps et vous avez dit... Eh bien, allez, commissaire, récitez votre tirade. Imaginez toujours que c'est moi l'anarchiste.
Oui, bien sûr. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Rome. Jolie nouvelle pour toi, ton ami. Pardon, ton camarade le danseur a tout avoué. C'est lui qui a déposé la bombe à la Banque de Milan.
Et lui, le cheminot, comment a-t-il pris la chose?
Mal. Hein? Il a pâli.
Oui.
Il a demandé une cigarette... Il l'a allumé...
Et il a sauté.
Non, pas tout de suite.
Dans la première version, vous avez dit tout de suite, n'est-ce pas?
C'est vrai.
De plus, dans votre déclaration à la radio et à la télévision, vous avez dit que l'anarchiste, avant d'accomplir son geste tragique, se sentait perdu. Il était coincé. C'est bien ce que vous avez dit.
Oui, exactement, j'ai dit coincé.
Et qu'avez-vous donc ajouté?
Que son alibi selon lequel il aurait passé le fameux après-midi de l'attentat à jouer aux cartes dans un bistrot du Naviglio... C'était effondré qu'il ne tenait plus debout.
Et que par conséquent, l'anarchiste pouvait être considéré comme gravement suspect dans les attentats contre les banques de Milan et pas seulement contre les trains. Vous avez ajouté pour conclure que le geste suicidaire de l'anarchiste était de toute évidence un acte d'accusation.
Je l'ai dit.
Quant à vous, commissaire, vous avez hurlé que cet homme, de son vivant, était une fripouille, un criminel. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous avez même déclaré, monsieur le préfet, voici le document que naturellement, je dis bien naturellement, on n'avait aucune preuve matérielle contre le pauvre cheminot, exact? Il était donc parfaitement innocent. Et vous, commissaire, vous avez même ajouté ce commentaire un petit peu, comment dire, cet anarchiste était un brave garçon.
Oui, je le reconnais, nous nous sommes trompés.
Oh, je vous en prie, tout le monde peut se tromper. Pourtant, excusez-moi, vous y êtes allé un peu fort. Laissez-moi vous le dire. Vous commencez par arrêter arbitrairement un libre citoyen, puis vous abusez de votre autorité en le retenant au-delà du délai légal. Vous traumatisez alors ce pauvre mécanicien en prétendant que vous avez la preuve qu'il est le dynamiteur du chemin de fer. Ensuite, vous provoquez en lui plus ou moins volontairement la psychose du licenciement, puis c'est son alibi de la partie de cartes qui s'effondre. Et pour finir, coup de massue avec rebondissement, son ami et camarade de Rome s'avoue coupable du massacre du Milan. Son ami, donc, est un hideux assassin. Si bien qu'il a cette réflexion désolée, c'est la fin de l'anarchie, et qu'il saute. Vous n'êtes pas un peu fou? Comment voulez-vous qu'un homme ainsi tourné en dérision ne soit pas pris d'un raptus? Ah, ça, je regrette, mon cher, mais selon moi, vous êtes entièrement responsable de la mort de l'anarchiste à inculper sur le champ pour instigation au suicide.
Ce n'est pas possible, monsieur le juge, notre métier, vous l'avez reconnu vous-même, c'est d'interroger les prévenus pour les faire parler. C'est inévitable, on doit parfois recourir à des stratagèmes, des traquenards, même un peu de violence psychologique, bon.
Oui, c'est qu'il ne s'agit pas d'un peu de violence, mais d'une violence constante dans ce cas-ci. Et d'abord, aviez-vous, oui ou non, la preuve irréfutable que le pauvre cheminot avait menti sur son alibi? Répondez.
La preuve irréfutable, non, mais...
Les mais ne m'intéressent pas. N'y a-t-il pas 2 ou 3 retraités qui aujourd'hui encore confirment son alibi?
Si.
Vous avez... par conséquent menti à la télévision, que j'ai vue d'ailleurs en direct, et à la presse en disant que l'alibi s'était effondré, qu'il restait des preuves accablantes. Les traquenards, les pièges, les bobards ne vous servent donc pas seulement à attraper les prévenus, mais aussi à surprendre la bonne foi du peuple, crédule et connard. Avez-vous jamais entendu dire que répandre des nouvelles fausses, ou du moins tendancieuses, est un délit grave?
Mon collaborateur m'avait assuré que...
Oh, nous y revoilà. On se décharge sur des tiers. Bon, à vous, commissaire, de me répondre. La nouvelle que le danseur anarchiste avait avouée, d'où vient-elle? J'ai bien lu tous les procès-verbaux des interrogatoires menés par la police et par le juge d'instruction de Rome. Nulle part il n'apparaît que le dit anarchiste ait reconnu, ne fût-ce qu'une fois, sa responsabilité dans le massacre des banques. Alors, cet aveu, c'est encore vous qui l'avez inventé? Répondez!
Oui, nous l'avons inventé.
Oh, quelle imagination. vous devriez écrire des romans tous les deux. Vous en aurez d'ailleurs peut-être l'occasion, croyez-moi. On est fort bien en prison pour écrire. Ça vous donne un coup de cafard, hein. Vous êtes brûlés l'un et l'autre. Le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur ont décidé de vous débarquer pour faire un exemple aussi sévère que possible et restaurer le crédit de la police.
Impossible. Incroyable.
Comment pourrait-on ?
Rien de plus sûr. Vos carrières à tous les deux sont fichues. C'est la politique, mes bons amis. Vous avez d'abord été utile dans un certain jeu. Il fallait matraquer les luttes syndicales, créer un climat de mort à la subversion, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le vent a légèrement tourné. La mort de l'anarchiste défenestré a révolté l'opinion. Elle exige de tête, l'État les lui donne. Votre disgrâce va faire bien des heureux. Et qui ricaneront ?
Ah, commencez par nos collègues. Ça m'en foudrage.
Sans parler des journaux.
Dieu sait comment ils vont nous traiter. Vous voyez d'ici les illustrés.
C'est ce qu'ils vont aller chercher, ces cafards, dire qu'avant ils nous léchaient les bottes. Mort aux vaches.
C'était un sadique, un violent.
Sans parler des humiliations, des moqueries.
Des sarcasmes. Tous à nous tourner le dos, nous ne trouverons même pas une place de gardien de parking.
Putain de vie.
Oh non, putain de gouvernement.
Selon vous, en la circonstance, que pouvons-nous faire ? Donnez-nous un conseil.
Moi ? Oh, je ne sais pas. Que pourrais-je vous dire ?
Oui, donnez-nous un conseil.
Un conseil ?
Moi, disons, à votre place, je me jetterai par la fenêtre.
Quoi ?
Oui, c'est la meilleure des choses à faire. Vous m'avez demandé un conseil. En la circonstance, mes chers, plutôt que de supporter pareille humiliation, croyez-moi, sautez, allez du cran.
Ça n'a aucun rapport ?
Aucun, précisément. Laissez-vous emporter par le raptus. Sautez !
Non,
attendez ! Entendre quoi ? Qu'entendez-vous ? Pourquoi rester sur cette saloperie de terre ? On appelle ça vivre, putain de vie, putain de gouvernement ! Tout est putasserie, sautons !
Qu'est-ce que vous faites ? J'ai encore de l'espoir !
Oh non, il n'y a plus d'espoir, vous êtes perdus. Le comprendrez-vous enfin ? Perdus ! En bas !
Au secours ! Au secours !
En bas !
Poussez pas !
Je ne pousse pas, c'est le raptus, vive le raptus libérateur !
Non,
au secours !
Au secours !
Au secours !
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?
Rien, il n'y a rien. N'est-ce pas, commissaire ? N'est-ce pas, monsieur le préfet ? Rassurez votre agent.
Oui, ne te dérange pas, c'est seulement...
Un raptus.
Un raptus ?
Oui, figurez-vous, il voulait se jeter par la fenêtre.
Eux aussi ?
Oui, mais ne le dites pas aux journalistes, par pitié.
Oh, non.
Ce n'est pas vrai, c'est vous, monsieur le juge, qui voulait...
Vous allez le dire !
C'est vous qui vouliez sauter, monsieur le juge ?
Non, c'est lui qui poussait !
Oh oui, c'est vrai, je l'ai poussé, excusez-moi. Ils ont failli d'ailleurs tomber pour de bon. Ils étaient au désespoir. Il suffit d'un rien quand on est au désespoir.
Ah oui, rien.
Vous pouvez parler, vous, c'est ça. Dans notre situation, je vous assure qu'à un moment, j'ai été à deux doigts de sauter, vraiment !
De sauter ? Vous ?
Moi aussi ?
Oui, vous voyez, messieurs, quand on parle de raptus. Et à qui la faute ?
À ces salauds du gouvernement ! À eux seuls, ils commencent par vous harceler, réprimer, créer un climat de subversion, de désordre imminent.
Le besoin d'un État fort. On fonce.
Non, absolument pas. Je vais vous répondre à qui la faute. C'est uniquement de ma faute.
Attendez, si j'ai bien compris...
Vous avez certainement mal compris, laissez-moi parler, commissaire.
Excusez-moi, patron.
Je ne comprends pas, monsieur le juge... Pourquoi vous avez monté toute cette comédie ?
Une comédie, le mot est grossier. Non, il s'agit des ruses, des traquenards classiques dont la magistrature use, elle aussi, parfois, pour montrer à la police combien les méthodes de ce genre sont barbares, pour ne pas dire criminelles.
Vous avez donc toujours la conviction que si l'anarchiste s'est jeté par la fenêtre, c'est que nous l'avons poussé ?
Vous me l'avez confirmé tout à l'heure, en perdant la tête.
Et nous n'étions pas là au moment où il a sauté. Demandez à l'agent !
Oui, oui. Monsieur le juge, il venait de sortir quand il a sauté.
Cela reviendrait à dire que celui qui amorce une bombe, n'est-ce pas, la dépose dans une banque et puis s'en va n'est pas coupable parce qu'il n'était pas présent au moment de l'explosion. Oh, vous parlez d'une logique.
Non, monsieur le juge, il y a confusion. L'agent faisait référence à la première version. Nous parlons de la seconde.
Oui. Ah oui, il y a eu en effet une sorte de rétractation, n'est-ce pas, dans un second temps ?
Une rétractation à proprement parler, non, une simple rectification.
Exact. J'écoute. Qu'avez-vous rectifié ?
Eh bien, nous avons rectifié l'heure de... Comment dire de la ruse...
Comment cela, l'heure de la ruse?
Oui, nous avons déclaré que nous avons tendu un piège à l'anarchiste avec les bourdes y afférentes. Non pas à minuit, mais vers 20h.
Oui, à 20h, voilà.
Ah bon, vous avez tout avancé de 4h comme ça, y compris le vol plané par la fenêtre?
Le vol plané, non. Il a toujours eu lieu à minuit, sans changement. Il y avait des témoins.
Entre autres, le journaliste qui se trouvait dans la cour, vous vous rappelez? Celui qui a entendu le choc sur la corniche et au sol et qui a été le premier à accourir. Il a tout de suite noté l'heure.
Bon. Le suicide a eu lieu à minuit. Et la chausse-trappe bidon à 20h. Oui. Que devient le raptus alors? Vous m'envoyez promener le raptus?
Pas du tout, nous n'envoyons pas promener le raptus.
Mais bien sûr que si, vous envoyez promener le raptus.
Ah non, 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 nous voulions prouver que le raptus ne peut pas avoir été provoqué par notre ruse, par nos affirmations fausses. Et justement, parce que entre ce moment-là et le suicide, il s'est écoulé 4h.
Ah oui, 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 vous avez raison, quelle trouvaille. Quelle habileté. Ah bravo, bravo. On ne comprend vraiment pas pourquoi ce pauvre type s'est jeté par la fenêtre, mais peu importe pour le moment, l'important est que votre innocence soit établie.
J'en suis sincèrement ému, c'est bon. C'est bon de savoir que la magistrature est toujours la meilleure amie de la police.
Oh, disons même sa collaboratrice.
Oh, disons-le, oui, oui.
Vous devez toutefois collaborer, vous aussi, si vous voulez que je vous aide jusqu'au bout. Il faut rendre ce qui est à César. Et il faut rendre aussi votre position inattaquable.
Assurément, avec plaisir.
Ah, dans la seconde version des faits, voici, je lis. Le cheminot se calme et dit que les relations entre l'ex-danseur et lui n'étaient pas bonnes. Eh bien, parfait. Deuxièmement, n'oublions pas non plus que notre cheminot savait que dans le groupe anarchiste romain, il rôdait un tas de mouchards et d'indicateurs. Il l'avait même dit aux danseurs. La police et les fascistes se servent de vous pour susciter des désordres. Vous êtes truffés d'agents provocateurs à leur solde. Ils vous mènent où ils veulent. Ça retombera ensuite sur toute la gauche.
Et c'est peut-être même pour ça qu'ils s'étaient disputés.
Et comme le danseur n'avait rien voulu entendre, notre cheminot en avait peut-être conçu le soupçon qu'il était lui aussi un agent provocateur.
C'est possible.
Puisque cette révélation ne lui importait en rien, nous tenons une preuve irréfutable. L'anarchiste était serein.
Bien mieux, il souriait. Rappelez-vous, je l'ai moi-même déclaré dès la première version.
Oui, mais hélas, il y a un hic. Dans la première version, vous êtes allé raconter que l'anarchiste, en allumant sa cigarette, était prostré comme une star du muet et qu'il avait eu cette réflexion désespérée. C'est la fin de l'anarchie. Quelle idée de pousser les choses au pathétique, mon Dieu.
Mais vous avez raison, monsieur le juge. C'est lui qui en a eu l'idée, là, notre jeune homme. Je lui avais bien dit, en plus. Hein. Laissons le mélo au cinéaste et faisons notre métier de policier.
Si vous m'en croyez... Au point où nous en sommes, il n'y a qu'un moyen pour y comprendre quelque chose et trouver une solution cohérente. Il faut recommencer à zéro.
Il faut fournir une troisième version ?
Oh, à Dieu de plaise ! Il suffit de rendre plus plausibles les deux que nous avons déjà. Nous pouvons dire d'abord que la consternation où était plongé l'anarchiste, vous avez, comment dire, un peu ému.
Oui, moi cela m'avait vraiment ému.
Oui. Nous pouvons ajouter que vous regrettiez de l'avoir tourmenté, monsieur le préfet. Vous, je vous connais, qui êtes un homme tellement sensible.
Oui, oui, au fond, cela m'avait fait de la peine, vraiment. J'avais regretté.
Parfait, parfait, parfait. Je parie que vous n'avez pas pu vous retenir de lui mettre une main sur l'épaule.
Non, je ne crois pas.
Oh, allons, c'est un geste paternel.
Oui, peut-être, mais je ne me le rappelle pas.
Oh, je suis sûr, moi, que vous l'avez fait. Je vous en prie, dites-moi
non,
oui.
Non, 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 non.
Oui, 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 il l'a fait. Moi, je l'ai vu.
Bon. Si elle m'a vu, bien, alors...
Bien. Quant à vous, monsieur le commissaire, vous lui avez donné une petite tape sur la joue comme ça.
Non, je regrette de vous décevoir, mais je suis sûr que non. Je ne lui ai pas donné de tape.
Mais enfin, vous me décevez, mon petit. Savez-vous pourquoi? Parce que cet homme n'était pas seulement un anarchiste, c'était un cheminot. Vous l'aviez oublié. Vous ne savez plus ce que ça signifie un cheminot, mais c'est toute votre enfance. C'est les petits trains électriques ou mécaniques. Vous n'avez jamais eu de petits trains quand vous étiez enfant?
Ah si, j'en avais un. À vapeur même. Avec de la fumée. Un train blindé, naturellement.
Et qui faisait tut-tut.
Ah oui, oui, tut-tut.
Magnifique, vous avez dit tut-tut. Et vos yeux se sont éclairés. Oh non, mon cher, vous n'avez pas pu ne pas éprouver d'affection pour cet homme. Parce que, dans votre inconscient, il était associé à votre train. Votre petit train. J'en suis sûr et certain, vous lui avez donné cette petite tape.
Ah oui, maintenant je me rappelle, c'est vrai. Je l'ai vu, il la lui a donnée. Il lui en a même donné deux.
Ah, vous voyez, j'ai des témoins. Qu'avez-vous donc dit en le tapotant?
Je ne m'en souviens pas.
Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez dit. Vous lui avez dit... Allons, allons, mon cher, ne te laisse pas abattre ainsi. Et vous l'avez même appelé par son petit nom. Et vous lui avez dit, tu verras, l'anarchie ne mourra pas.
Je ne crois pas que...
Mais si, mon Dieu, vous l'avez dit, sinon je me fâche. Alors dites-le, je dois l'inscrire au procès-verbal.
Eh bien, j'ai dit... Allons, mon garçon, ne t'en fais pas. Tu verras, l'anarchie ne mourra pas.
Bien. Ensuite, vous avez chanté.
Nous avons chanté.
Eh bien, oui, forcément, au point où vous en y étiez. Hein. Il s'était créé un tel climat d'amitié, de camaraderie. On ne peut pas s'empêcher de chanter, tous en cœur, voyons. Qu'avez-vous chanté ? Notre patrie, c'est le monde entier, je suppose.
Oh, vous m'excuserez, monsieur le juge, mais sur le point du cœur chanté, nous ne pouvons vraiment plus vous suivre.
Ah oui, vous ne me suivez plus. Savez-vous ce qu'on pense de vous ? Que vous êtes non seulement des fripouilles, mais des charlatans. Qui voulez-vous désormais qui vous croit, à part le juge des affaires classées naturellement ? Et savez-vous pourquoi on ne vous croit plus ? Parce que votre version des faits, outre qu'elle est extravagante, manque d'humanité, de chaleur humaine. Personne n'a oublié la réponse grossière et insolente que vous avez faite, commissaire, à la malheureuse veuve de l'anarchiste qui vous demandait pourquoi on ne l'avait pas prévenue de la mort de son mari. Jamais un moment d'émotion. Aucun de vous qui se laisse aller, qui se déboutonne, qui rit, par exemple, ou qui pleure, qui chante. On vous pardonnerait les contradictions où vous êtes tombé à chaque pas, si en compensation, derrière vos embrouilles. On arrivait à avoir un cœur, deux hommes humains qui se laissent prendre à la gorge par l'émotion et qui, quoique policier, chantent avec l'anarchiste une chanson à lui. Rien que pour lui faire plaisir. Notre patrie, c'est le monde entier. On éclaterait en sanglots, on acclamerait vos noms. À entendre une si belle histoire, je vous en prie pour votre bien, pour que l'enquête tourne à votre avantage. Chantez ! Allez-y. Allez-y, je vous en prie, chantez, faites un petit effort. Nostra patria, el mundo intero. Allez-y. Nostra legge, le libertà. Allez, un peu d'effort. Ed un pensiero. Oui, c'est ça. Allez. Ed un pensiero. Nostra patria, il mondo intero. Nostra legge, la libertà, ed un pensiero, liber in cor ci sta. O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti, né paura. Nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà, ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà, ed un pensiero, liber in cor ci sta.
Bravo, nous y sommes. Oh, maintenant, personne ne pourra plus mettre en doute la sérénité de l'anarchiste. Soyez gentils. Racontez-moi ce qui s'est passé vers minuit.
Nous étions six dans cette pièce. Quatre agents, moi-même, un lieutenant de gendarmerie.
Oui, celui qu'on a ensuite promis capitaine.
Exactement.
Que faisait-on ?
Nous l'interrogions en plaisantant.
Vrai, en plaisantant.
Bah, je vous assure, demandez à l'agent.
Ce n'est pas la peine. C'est incroyable. Mais ça figure aussi dans la déposition faite devant le juge des affaires classées.
Ah, bien sûr, il ne l'a pas mis en doute, lui.
Je veux bien le croire. Que signifie en plaisantant ?
On plaisantait, on l'interrogeait en essayant de rigoler.
Je ne comprends pas. Vous jouiez à la main chaude, peut-être ? Vous mettiez des faunets, vous jouiez de la trompette ?
Non, pas jusque-là, mais enfin... on prenait les choses à la rigolade, on faisait des grimaces aux prévenus, des calembours, des ladzi.
Oui, on rigolait bien. Vous savez, on ne dirait pas, mais le commissaire est un farceur. Vous verriez ça quand il est en veine, ses interrogatoires sont d'un drôle. Est-ce qu'on peut rire ?
Eh bien, passons, admettons. Sur quoi plaisantait-on ? Sur qui ?
Essentiellement sur l'anarchiste danseur.
Ah, vous avez sans doute plaisanté parce que, non content de danser, il enfilait des perles de couleur pour faire des abat-jours liberty. En insinuant, sait-on jamais, qu'il était peut-être lui aussi un peu liberty.
Ça va.
L'anarchiste liberty.
Mais ça va, silence.
Non, vraiment, nous n'avons pas poussé jusque-là.
Oh, allons, pas d'excès de modestie. En tout cas, il est certain que vous aviez l'ironie un peu lourde contre son ami danseur et que lui, le cheminot, en a été vexé, c'est cela ?
Je suppose.
Oui, il s'est levé d'un bond.
Oui, il s'est levé d'un bond.
Et il s'est mis à crier. Assez ! Je ne tolérerai pas ce genre d'insinuation ! Mon ami est danseur, soit, il enfile des perles, il boite ! Mais c'est un homme, bon Dieu ! À ces mots, il a sauté sur le rebord de la fenêtre, il a esquissé un pas de deux, il a sauté.
C'est à peu près ce qui a dû se passer. Mais je ne peux pas le jurer, comme je vous l'ai dit, je venais de sortir.
Moi j'y étais, si vous voulez, je peux le jurer.
Non, silence toi.
Quelle susceptibilité cet anarchiste, quand même, se jeter par la fenêtre simplement parce qu'on se paie la tête d'un de ses amis. S'il vous plaît, cela vous gênerait-il que je fasse fermer la fenêtre? Il est tombé tout d'un coup un de ces froids.
Je vous en prie, il fait vraiment froid, oui.
C'est que le soleil vient juste de se coucher.
Ah oui, ah, j'avais pas remarqué. Et dis donc, ça me fait penser, ce soir-là, le soleil ne s'est pas couché.
Quoi ?
Oui, le soir où l'anarchiste s'est jeté par la fenêtre, le soleil est resté dans le ciel. Il n'a pas dû y avoir de coucher de soleil.
Mais je ne comprends pas.
Eh bien, si en décembre la fenêtre était encore grande ouverte à minuit, cela signifie qu'il ne faisait pas froid. Et s'il ne faisait pas froid, c'était simplement que le soleil ne s'était pas encore couché. Pourtant, la météo de ce soir-là donne pour toute l'Italie des températures à faire grelotter un ours blanc. Et vous, vous n'aviez pas froid, au contraire. Un temps de printemps. Vous avez un truc.
Vous m'excuserez, monsieur le juge, je ne comprends pas. Vous êtes ici tout exprès pour nous aider, et vous ne faites que mettre en doute nos témoignages, vous moquer, nous humilier...
D'accord, j'exagère un peu. Venons-en au fait. Le saut par la fenêtre.
D'accord.
Oui. Notre anarchiste pris d'un raptus, donc. Nous verrons plus tard à chercher ensemble un motif plausible pour ce geste dément. Se lève donc, d'un bond, prend son élan, hop. Ah, à propos, qui lui a fait la courte échelle ?
La courte échelle ?
Oui, lequel d'entre vous s'est placé près de la fenêtre, les doigts entrelacés à la hauteur du ventre, comme ça, pour qu'il puisse prendre son appel et bzzum ! Boum, 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 il s'envole par-dessus la balustrade.
Oh, monsieur le juge, vous prétendez que nous...
Non, ne vous échauffez pas, je demandais simplement. Je pensais que comme il s'agit de sauter assez haut, avec si peu d'élan, sans aide extérieure, il a fait de la gym. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse mettre en doute...
Il n'y a rien à mettre en doute, monsieur le juge. Je vous assure, il a tout fait tout seul.
Ah, alors, si je comprends bien. Ainsi, nous avons d'un côté un homme. Oui, oui, c'est bien cela. Un homme qui mesure tout au plus 1m60, sans aide et sans tabouret. Et de l'autre, une demi-douzaine de policiers tout près de la fenêtre. Ils n'ont pas le temps d'intervenir.
Mais c'est arrivé si brusquement.
Ah bah oui, monsieur le juge, vous n'imaginez pas à quel point il était agile. Vroom, du vif argent, hein. J'ai à peine eu le temps de l'attraper par un pied.
Ah, vous voyez que ma technique de la provocation est efficace. Vous l'avez attrapé par un pied.
Oui, mais sa chaussure, elle m'est restée dans la main et s'est retrouvée... En bas, quand même.
Oh, cela n'a aucune importance, mon petit. L'important est que la chaussure soit restée. Vous entendez ? La chaussure est la preuve irréfutable que vous vouliez le sauver.
C'est irréfutable.
Bravo.
Je vous remercie.
Oui, ça va.
Minute. Pourtant, il y a là quelque chose qui ne cadre pas. Le suicidé avait-il 3 chaussures ?
3 chaussures ?
Oui. L'une serait restée entre les mains du policier. Il en a témoigné lui-même quelques jours après l'accident.
C'est vrai ? Il l'a raconté au reporter du Corriere della Sera.
Oui, mais là, en annexe, on certifie que l'anarchiste mourant sur le pavé de la cour avait encore ses 2 chaussures au pied. 2 plus 1, ça fait 3. C'est ce qu'ont témoigné ceux qui sont accourus sur place, entre autres un reporter de l'UNITA et des journalistes de passage.
Je ne comprends pas.
Eh bien, figurez-vous que moi non plus.
Oh, quelle guigne ! Il nous faut trouver une explication plausible.
Le téléphone sonne.
Excusez-moi.
Tous s'immobilisent. Le commissaire prend le récepteur.
Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Attends. C'est le planton. Il dit qu'en bas, à la porte, il y a une journaliste qui vous demande, monsieur le préfet.
Ah oui, je lui avais donné rendez-vous pour aujourd'hui, c'est celle de l'Espresso ou de l'Europeo, je me rappelle plus. Demandez si elle s'appelle Feletti.
Elle s'appelle Feletti ? Oui, Maria Feletti.
Oh, c'est elle, elle voulait une interview. Priez-la de passer un autre jour, j'ai pas le temps.
Oh non, 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 jamais de la vie. Je ne permettrai pas que vous ayez des histoires à cause de moi.
Que voulez-vous dire ?
Eh bien, je la connais, celle-là. Elle a le bras long. Faites attention, elle est capable de se vexer. Et Dieu sait quel article elle va vous pondre. Recevez-la par pitié.
Et votre enquête ?
Oh, ça peut attendre. Vous n'avez pas encore compris que je suis embarqué sur le même bateau que vous ? Les gens comme elle, il faut essayer de les mettre de son côté. Fiez-vous à moi.
D'accord. Qu'on l'introduise. Et vous, qu'allez-vous faire ? Vous nous quittez ?
Oh non, 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 non. Jamais de la vie, je n'abandonne pas mes amis, surtout dans le péril.
Vous restez ? Vous restez ? Et à quel titre ? Vous voulez que ce vautour de journaliste découvre qui vous êtes et ce que vous venez faire ici, hein, pour l'écrire ensuite en long et en large dans son journal. Dites-le donc que vous voulez notre perte.
Mais non, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Le vautour ne connaîtra jamais ma véritable identité.
Vous croyez ?
Oui, bien sûr, je vais changer de personnage. L'important, c'est que vous ne vous compromettiez pas, vous.
Vous êtes trop généreux, monsieur le juge.
Oh, ne m'appelez plus monsieur le juge, je vous prie. À partir de maintenant, je suis le capitaine Marc-Antonio Banzi-Piccini des laboratoires de la police. Ça vous va ?
Je le connais, le capitaine Banzi-Piccini. Il est à Rome.
Eh bien, justement, bon Dieu, êtes-vous bête. Comme ça, si la journaliste écrit quelque chose qui ne nous plaît pas, il nous sera facile de prouver qu'elle a tout inventé. Nous ferons venir de Rome comme témoin le vrai capitaine Piccini.
Entre la journaliste.
Venez, mademoiselle, entrez donc.
Bonjour, bonjour. Monsieur le préfet, s'il vous plaît.
C'est moi, enchanté, mademoiselle. Nous ne nous connaissons que par téléphone, malheureusement.
Enchanté. Dites donc, le planton en bas m'a fait des difficultés.
Oh, je vous prie de l'excuser, c'est vraiment de ma faute. J'ai oublié de prévenir que vous deviez arriver. Je vous présente mes collaborateurs, alors le commissaire qui dirige ce bureau.
Enchanté.
Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle.
Ah, oh, quelle poigne. Oh,
excusez-moi.
Et voici le capitaine. Capitaine.
Me voilà, madame, mademoiselle. Capitaine Marc-Antonio Banzi-Piccini, des laboratoires de la police. Excusez ma main raide, c'est une main de bois, un souvenir de la campagne d'Algérie. Ex-parachutiste de la Légion étrangère. Asseyez-vous, mademoiselle.
Voulez-vous boire quelque chose, mademoiselle ?
Non, merci. Je préférerais, si cela ne vous dérange pas, commencer tout de suite. Je suis plutôt pressée. J'aurais plusieurs questions à poser. La première s'adresse justement à vous, commissaire. Pourquoi vous appelle-t-on fenêtre à califourchon ?
Fenêtre à califourchon ? Moi ?
Oui, ou bien commissaire des fenêtres.
Et qui, selon vous, m'appelle comme ça ?
J'ai ici la photocopie de la lettre d'un jeune anarchiste expédié de la prison de San Vittore, où ce garçon se trouvait à la date de la mort de notre anarchiste. Il y parle justement de vous, commissaire, et de la pièce où nous sommes.
Et que dit-il ?
Je lis. « Le commissaire du quatrième étage m'a assis de force sur la fenêtre, les jambes pendantes dans le vide, et puis il s'est mis à me provoquer. Saute !» Et il m'insultait. « Pourquoi tu ne sautes pas ? Pas le courage, hein ? Allons, il faut en finir, qu'est-ce que tu attends ? Je vous assure que j'ai dû serrer les dents pour ne pas céder, pour ne pas me laisser aller. »
Excellent, excellent, on dirait du Hitchcock.
« Je vous en prie, capitaine, c'est au chef de ce bureau-ci que j'ai posé la question, et non à vous. » Toujours à propos de fenêtre, dans le dossier qui accompagne l'ordonnance de clôture du juge des affaires classées, il manque le rapport d'expertise sur la parabole de la chute.
La parabole de la chute.
Oui, la parabole de la chute du prétendu suicidé.
Et à quoi ça sert, s'il vous plaît ?
À établir si, au moment où l'anarchiste est passé par la fenêtre, il était encore en vie ou non. C'est-à-dire s'il a pris un minimum d'élan, ou bien s'il est tombé inanimé en glissant le long du mur. S'il y a eu des fractures ou des lésions au bras ou aux mains. Or, l'expertise a prouvé qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que le prétendu suicidé n'a pas mis les mains en avant pour se protéger au moment de l'impact sur le sol, alors que ce geste est absolument normal et instinctif.
Oui, mais n'oubliez pas que nous avons ici affaire à un suicidaire, à un homme qui saute parce qu'il veut mourir.
Ça ne veut rien dire. Sur ce point, je dois malheureusement, je dis bien malheureusement, donner raison à mademoiselle.
Merci.
Je suis objectif, moi, vous voyez ? On a fait un tas d'expériences sur la question. On a pris des suicidaires, on les a fait sauter. Et on a observé que tous, instinctivement, au bon moment, tac, les mains en avant.
Voilà une façon de nous soutenir, vous êtes fous.
Oui, qui vous l'a dit ?
Le détail le plus déconcertant pour lequel je serais heureuse d'avoir une explication, c'est que parmi les documents joints à l'ordonnance du juge, il manque la bande sur laquelle a été enregistrée l'heure exacte où on a appelé l'ambulance. Appel parti du standard de la préfecture de police et qui aurait eu lieu, comme l'a confirmé le témoignage du brancardier de la Croix-Rouge, à minuit moins deux. Mais tous les journalistes accourus sur la place ont déclaré que le saut a eu lieu exactement à minuit 3. Bref, on a appelé l'ambulance 5 minutes avant que l'anarchiste fasse un vol plané par la fenêtre. L'un de vous peut-il m'expliquer cette étrange avance ?
Eh bien, c'est-à-dire que, bon, il nous arrive souvent d'appeler les ambulances comme ça, préventivement. On ne sait jamais, et parfois, vous voyez, nous tomberons juste.
Bravo.
D'ailleurs, je ne comprends pas de quoi vous voulez nous accuser. Prévoir serait-il un crime ? 3 minutes d'avance, à peine !
Dans la police, l'essentiel est d'arriver avant.
Et je suis d'ailleurs absolument convaincu qu'il faut incriminer les pendules. Ces journalistes-là devaient avoir des montres qui retardaient. Avançaient.
Oui, à moins que ce ne soit la pendule du standard qui retardait. Celle qui a enregistré notre coup de téléphone.
Étrange, étrange, cette hécatombe de pendule.
Ben pourquoi ? Nous ne sommes pas en Suisse, ici. Chez nous, chacun met sa montre à l'heure qui lui plaît, figurez-vous. Il y en a qui préfèrent qu'elle avance, d'autres qu'elle retarde. Nous sommes un pays d'artistes, terriblement individualistes, rebelles aux conventions.
Bon, sur ce point, je vous donne raison. Les juges qui classent les dossiers sont particulièrement rebelles. Ils omettent de recueillir les témoignages directs, les bandes où sont enregistrées les heures, les rapports d'expertise sur les chutes. Ils ne se demandent même pas pourquoi on appelle d'avance les ambulances. Bon, bagatelle que tout cela. Y compris les ecchymoses que le mort avait au cervelet et dont les causes ne sont pas claires du tout.
Alors là, attention, mademoiselle, je vous conseille de ne pas parler. À tort et à travers, c'est dangereux.
Une menace.
Non, monsieur le préfet, je ne crois pas que mademoiselle parle à tort et à travers. Elle fait sans doute allusion à une version des événements que j'ai déjà entendu raconter plus d'une fois.
Tout à fait.
Chose curieuse, cette version émane justement d'ailleurs de votre maison.
De quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est simple. On murmure que pendant le dernier interrogatoire subi par l'anarchiste, l'un des policiers présents, juste quelques minutes avant minuit, aurait perdu patience et appliqué avec le tranchant de la main un grand coup sur la nuque du dit anarchiste.
Mais qu'est-ce que vous dites ?
Oh, restez calme, mon cher commissaire, restez calme. Lequel en aurait été à moitié paralysé. Il râlait même, il respirait difficilement. Alors, on aurait appelé l'ambulance. Dans l'intervalle, en essayant de le ranimer, on aurait ouvert la fenêtre, on y aurait conduit l'anarchiste, on l'aurait maintenu penché sur la barre d'appui, puis, pour que l'air plutôt frais de la nuit le secoue un peu. On dit qu'ils étaient deux à le soutenir, et comme il arrive en général dans ce cas-là, bah, chacun se repose sur l'autre. C'est moi qui le tiens. Oh non, non, c'est toi qui le tiens. Et badaboum, lève-la par terre.
Non, mais vous êtes
c'est
devenu fou.
Très exactement cela. Vous devez admettre que cette version dissiperait bien des mystères. Pourquoi cette ambulance appelée à l'avance ? Pourquoi cette chute d'un corps inerte ? Et même le terme étrange utilisé par le ministère public dans ses conclusions.
Quel terme ?
Le ministère public a déclaré par écrit que la mort de l'anarchiste devait être considérée comme une mort accidentelle. Notez-le bien, un accident et non pas un suicide, comme vous l'avez dit vous. Il y a une sacrée différence entre les deux. On pourrait même dire que le drame tel que l'a si bien raconté le capitaine est bel et bien un accident.
Laissez-moi faire, monsieur le préfet, je vous en prie. Calmez-vous. Eh bien, mademoiselle, je vais vous démontrer que cette dernière version est absolument irrecevable.
Tout cela, irrecevable, comme est irrecevable pour le juge d'instruction, le témoignage des retraités.
Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de retraités irrecevables ?
Non, c'est drôle que vous ne soyez pas au courant. Dans l'ordonnance de clôture, le juge en question a déclaré irrecevable le témoignage des trois clients cités par notre anarchiste, qui affirmait avoir passé le tragique après-midi des bombes dans un bistrot du Naviglio à jouer aux cartes avec lui.
Eh bien, irrecevable, pourquoi ?
Parce que, toujours selon le juge d'instruction, il s'agit de personnes âgées, de santé précaire et invalides de surcroît.
Il a écrit ça dans l'ordonnance.
Oui.
Comment lui donner tort ? Objectivement, on ne peut pas soutenir qu'un retraité d'un certain âge, invalide de surcroît, invalide de guerre ou du travail, comme vous voudrez, un ancien ouvrier, n'est-ce pas ? Un ancien ouvrier, je dis bien. Soit en possession de la moindre des qualités psychophysiques exigées par l'exercice délicat du témoignage.
Pourquoi un ancien ouvrier ne le pourrait-il pas ? Expliquez-moi.
Oh, où vivez-vous donc, mademoiselle ? Avez-vous la moindre idée de ce qu'est un ouvrier ? Quand il arrive à l'âge de la retraite. Quand il y arrive, bien sûr. Il y a beau temps qu'il est pressé comme un citron, réduit à l'état de larve presque sans réflexe, je dirais même à l'état de guenille.
Vous poussez le tableau bien au noir, il me semble.
Oh, vous croyez ? Eh bien, allez jeter un coup d'œil dans un bistrot où les retraités jouent aux cartes et vous les entendrez.
Oh, misérable ! La tête de carreau, c'est moi qui l'avais joué ! Oh mais non, c'est toi qui as joué à la manche précédente ! C'est pas cette fois-ci ! Quelle manche précédente ? C'est la première partie que j'ai fait dans aujourd'hui. Tu es vraiment gâteux ! Oh non, c'est toi qui es gâteux. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ta carte maîtresse ?
Capitaine, capitaine, vous exagérez. C'est peut-être leur faute, ils en sont arrivés là ?
Eh bien, notre société est divisée en classes, mademoiselle.
Ah.
Oui, même en matière de témoignages. Il y a des témoins de première, de deuxième, de troisième, de quatrième catégorie. Ce n'est jamais une question d'âge, vous voyez.
Mm-hmm.
On peut être plus vieux que Noé et plus gâteux que Josué. Du moment qu'on sort du sauna, douche écossaise, massage, friction, lampe à bronzer, chemise de soie, foulard, Mercedes à 6 places avec chauffeur. Je voudrais bien voir si le juge ne va pas immédiatement vous déclarer recevable. Il va même, selon moi, vous faire un baise-main hautement extra-recevable.
Je vois.
Pour ces gens-là, le greffier n'exige pas qu'ils prononcent à haute voix la formule classique « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, etc. » Il se contente de dire « Venez, messieurs, approchez, nous vous écoutons et vous croyons. » Ensuite, solennellement, le juge se lève et la main droite, bien en évidence sur l'évangile, déclare à haute voix « Nous jurons que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, nous le jurons !»
Très juste.
Le fou capitaine passe dans le bureau et on découvre qu'il a une jambe de bois genre pirate. Tous le regardent terrorisé. Le capitaine commente imperturbable.
Vietnam, béret vert, un mauvais souvenir, n'en parlons plus, c'est du passé.
La porte s'ouvre, le commissaire Bertozzo passe la tête, il a un bandeau sur l'œil.
Pardon, je dérange.
Venez ici, commissaire Bertozzo, entrez donc.
C'est juste pour déposer ça.
De quoi s'agit-il ?
Monsieur le préfet, c'est le fac-similé de la bombe qui a explosé à la banque.
Oh mon Dieu !
Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, elle est désamorcée.
Oui, alors vous êtes gentil, vous la posez là, et vous tendez la main à votre collègue. Vous aussi ! Vous aussi, commissaire, venez faire la paix !
La paix, monsieur le préfet, si je savais au moins ce qu'il avait contre moi pour me mettre l'œil dans cet état.
Ah, parce que tu ne le sais pas, hein ? Et le bruit incongru ?
Quel bruit incongru.
Oh, ça va, oui, oui, il y a des gens, on n'est pas seuls. Hein,
mais... Justement.
Monsieur le préfet, je voudrais bien comprendre ce qu'il lui a pris. Il est entré sans même dire bonjour et bam, dans la gueule.
Il aurait pu au moins lui dire bonjour, pour ça il a raison.
Ah, vous voyez, hein. Mais vous avez une tête que je connais. Non, sans rire, je le connais.
Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, permettez. Je suis le capitaine Marcantonio Banzi Piccini, des laboratoires de la police.
Piccini, non, c'est impossible, je le connais bien, le capitaine Piccini.
Le préfet lui décochant un coup de pied.
Non, vous ne le connaissez pas.
Je ne le connais pas, vous voulez rire.
Je te dis que tu ne le connais pas.
Autre coup de pied.
Mais tu vas pas remettre ça.
Laissez tomber.
Aïe.
Encore un coup de pied.
Mais c'est mon camarade de promotion.
Il reçoit un autre coup de pied du capitaine.
Puisqu'on vous dit de laisser tomber.
Et lui lui donne aussi une calotte.
Mais, dites donc.
Permettez, commissaire, je voudrais vous présenter mademoiselle. Mademoiselle
Feletti.
Feletti, journaliste. Eh bien, mademoiselle, si vous avez une question à lui poser, à lui aussi, là, le commissaire est un excellent expert en balistique et en explosifs.
Oui, si vous pouviez satisfaire une de mes curiosités, vous disiez que dans cette boîte, il y a le facsimilé de la bombe de la banque.
Tout à fait, mademoiselle. Un facsimilé très approximatif, étant donné que tous les engins ont disparu. Vous me comprenez ?
Il y a pourtant une bombe qu'on avait conservée qui n'avait pas explosé.
Oui, celle de la banque commerciale.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, au lieu de la désamorcer, de la remettre au laboratoire, comme c'est la règle, afin qu'on l'examine à fond, ceux qui l'ont découverte ont aussitôt couru dans une arrière-cour, l'ont enterrée et fait éclater.
Pourquoi me demandez-vous cela, s'il vous plaît ?
Vous le savez mieux que moi, commissaire, parce qu'on détruit, en même temps que la bombe, la signature des assassins.
Oui, c'est vrai. Et on dit même, d'ailleurs, dis-moi comment tu fabriques une bombe, je te dirai qui tu es.
Non, ce n'est pas Piccini.
Bien sûr que non, c'est pas lui, taisez-vous.
Il me semblait bien, et qui est-ce ?
Si le commissaire Bertozzo me permet, en tant que directeur des laboratoires de la police...
Non, c'est vraiment pas lui, hein. Mais que faites-vous, là, monsieur ? Cette boîte, laissez-la tranquille, s'il vous plaît, c'est dangereux.
J'appartiens au laboratoire, reculez-vous.
Vous vous y connaissez vraiment, vous ?
Vous voyez, mademoiselle, une bombe de ce genre est tellement complexe. Il faut faire très, très attention. Tous ces fils, vous voyez là,
oui.
deux détonateurs. Attention, la minuterie, le percuteur, manettes et leviers. Elle est tellement complexe, disais-je, qu'on peut très bien y cacher un double mécanisme à retardement sans que personne puisse l'y trouver, à moins de démonter toute la bombe pièce par pièce. Et il faudrait une journée entière, croyez-moi, pendant ce temps. Boum !
Qu'en dites-vous ? C'est pas un vrai technicien ?
Oui, mais ce n'est pas Piccini.
Voilà pourquoi on a préféré se priver de la signature des assassins, comme vous le dites, et faire éclater la bombe dans une arrière-cour plutôt que de risquer qu'elle explose au milieu des gens en provoquant un massacre plus horrible que le premier. Ah, convaincu ?
Oui, cette fois, vous m'avez vraiment convaincu.
Oui, d'ailleurs, moi aussi, je me suis convaincu moi-même.
Mais dites quelque chose, vous aussi, Bertozzo ! Montrez que dans notre service, on s'endort pas !
Et bien sûr, monsieur le préfet. La bombe authentique était très complexe. Je l'ai vue beaucoup plus complexe que celle-ci. Du travail de techniciens de haute école, sûrement. Des professionnels,
Oui, allez-y doucement.
Des professionnels,
hein.
Des militaires, peut-être.
Évidemment, c'est plus que possible.
Mais fermez-la, ça suffit !
Aïe !
Décoche tous les trois un coup de pied.
Mais c'est pas vrai, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
Bien. Ainsi, vous aviez beau savoir que pour fabriquer comme pour manipuler ce genre de bombe, il fallait une expérience de professionnel, militaire de préférence. Malgré cela, vous vous êtes jeté avec l'énergie du désespoir sur un seul et chétif groupuscule d'anarchistes, en laissant complètement tomber toutes les autres pistes. Je n'ai pas besoin de vous dire de quelle couleur et de quel bord.
Sans doute, si vous vous en tenez à la version de Bertozzo, qui ne peut pourtant pas faire foi, car il n'est pas un véritable technicien des explosifs. Il s'y intéresse, oui, comme ça, de temps en temps. C'est son violon dingue.
Mais quoi, mon violon dingue ? Mais... je m'y connais pas, mais qui c'est celui-là ? Mais qu'est-ce que vous en savez ? Mais qui êtes-vous ? Mais qui est-ce ? Vous allez me le dire maintenant, qui c'est ?
Soyez sage !
Calme-toi.
Oui, calmez-vous, commissaire. Soyez tranquille. Je suis sûre que tout ce que vous avez dit est vrai, aussi vrai que la police et la magistrature tout entière se sont empressées d'incriminer, passez-moi l'expression, la clique d'inorganisés les plus cinglés et les plus pitoyables qu'on puisse imaginer, un groupe d'anarchistes coiffés par un danseur.
Vous avez raison. Ils étaient très mal organisés et c'était une façade qu'ils s'étaient fabriquée exprès pour passer inaperçus.
En effet. Et qu'est-ce qu'on découvre derrière la façade ? Que sur les 10 de la bande, 2 étaient purement et simplement des vôtres, des indicateurs ou plutôt des mouchards et des agents provocateurs. L'un est un fasciste de Rome, connu de tout le monde sauf de nos étourdis, et l'autre, un de vos agents de la sûreté, déguisé lui aussi en anarchiste.
Pour l'agent déguisé en anarchiste, d'ailleurs, je ne comprends pas comment ils s'y sont laissés prendre. Je le connais, c'est un de ces cracks qui répond si on l'interroge sur Bakounine que c'est un fromage suisse sans trou.
Oh, il m'énerve celui-là, à tout savoir, à connaître tout le monde, et pourtant je sais que je l'ai
je
déjà vu quelque part.
Je ne suis absolument pas de votre avis, capitaine. Notre agent indicateur est au contraire un excellent élément et parfaitement formé.
Vous en avez beaucoup de ces mouchards parfaitement formés, disséminés ici. Ici et là dans les divers groupuscules extra-parlementaires ?
Je n'éprouve aucun d'embarras à vous révéler qu'en effet, nous en avons beaucoup et un petit peu partout.
Vous bluffez, monsieur le préfet.
Pas du tout. Je vous dirais même que ce soir, parmi les spectateurs, nous en avons quelques-uns. Comme toujours, vous voulez voir ?
Il frappe dans ses mains. On entend à l'orchestre des voix qui viennent de plusieurs directions.
Présent, patron ! Que voulez-vous ?
À vos ordres !
Vous avez vu ? Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas ! Les indicateurs et les mouchards font notre force.
Ils servent à prévenir, à contrôler...
À provoquer des attentats, pour avoir ensuite un prétexte à les réprimer.
Ah.
Oui, excusez-moi, j'ai voulu devancer la réplique plus que prévisible de mademoiselle.
Prévisible, en effet. De toute façon, si vous contrôliez parfaitement ces drôles d'oiseaux, comment aurait-il réussi à monter un coup aussi compliqué sans que vous interveniez pour les en empêcher.
Attention, le vautour...
C'est qu'à ce moment-là, notre agent indicateur était absent.
Oui, il a même apporté un mot signé par ses parents.
Mais l'autre indicateur, le fasciste, il y était, n'est-ce pas ? Tant et si bien que le juge de Rome le considère comme le principal responsable, organisateur et instigateur. Il aurait profité, c'est le juge qui le dit, de la naïveté de ces anarchistes pour leur faire exécuter un attentat dont il ne soupçonnait pas le caractère criminel. Je rapporte les paroles et les opinions du juge, bien entendu.
Patatras.
Vous n'êtes pas sans savoir que sur 173 attentats à la dynamite qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, 12 par mois, un tous les 3 jours, sur 173 attentats, disais-je, je lis, on en a découvert 102 dont il est établi de façon certaine qu'ils ont été organisés par des fascistes et que sur les 71 qui restent, on a des preuves sérieuses pour plus de la moitié d'entre eux qu'il s'agit aussi d'attentats montés par des fascistes ou en tout cas par des organisations parallèles.
Oh, elle est terrible.
Oui, les chiffres doivent être plus ou moins exacts. Qu'en dites-vous, commissaire ?
Il faudrait que je vérifie, mais en gros, ils me paraissent coïncider avec les nôtres.
Oui, à l'occasion, tâchez donc de vérifier aussi combien de ces attentats ont été organisés de manière à faire retomber les soupçons et la responsabilité sur des groupes d'extrême-gauche.
Eh bien, presque tous. C'est évident.
Ah, c'est évident. Et combien de fois êtes-vous tombé dans le panneau, plus ou moins naïvement ?
Méchante.
Pour ça, nous ne sommes pas les seuls. Pas mal de syndicalistes y sont tombés aussi, et quelques dirigeants du PCI, plus ou moins naïvement. Regardez, là, j'ai un article de l'UNITA qui les accuse de gauchisme vénitaire et aventuriste pour un acte de vandalisme dont on a ensuite découvert que les subversifs...
Oui, je sais, c'est un journal de droite qui a fait circuler ces nouvelles, avec le slogan habituel « Affrontement entre extrémisme opposé ». Ça marche toujours, même auprès de vous ?
Langue de vipère.
Je le connais.
Qu'espérez-vous donc, mademoiselle, avec vos provocations manifestes ? Vous voulez nous entendre dire que si, au lieu de perdre notre temps sur la piste de ces 3 pelés d'anarchistes, nous avions pris la peine de suivre sérieusement des pistes plus vraisemblables, par exemple celle des organisations paramilitaires et fascistes, financées par les industriels et soutenues par des militaires grecs ou avoisinants, nous aurions réussi à démêler les chevaux ?
Entendre un policier faire de pareilles déclarations, je vous assure, c'est vraiment déconcertant.
Il est devenu fou !
Fou ? Mais le fou ! Voilà qui c'est lui ! Monsieur le préfet, j'ai trouvé qui c'est, je le connais.
Eh bien, gardez-le pour vous, n'allez pas le crier partout !
Je te jure que je le connais, celui-là, il n'a jamais appartenu à la police, il s'est déguisé.
Je sais, tu ne m'apprends rien ! Mais que la journaliste ne t'entende pas !
Mais c'est un cinglé, tu ne comprends pas !
C'est toi qui es cinglé ! Tu ne me laisses même pas entendre ce qu'il disait, tais-toi !
Bien sûr, vous êtes journaliste et vous pataugeriez à merveille dans un scandale de ce genre. Vous seriez seulement un peu gêné en découvrant que ce massacre d'innocents à la banque n'a servi qu'à enterrer les luttes de l'automne chaud. À créer la tension nécessaire pour que les citoyens écœurés, indignés par tous les crimes de la subversion, demandent eux-mêmes l'avènement d'un état fort.
Ah ça, je ne me rappelle plus si je l'ai lu dans l'UNITA ou dans l'OTA Continua.
Parlez-moi un peu du scandale éventuel.
Un grand scandale, oui. Beaucoup d'arrestations à droite, quelques procès, Un tas de gros bonnets compromis, sénateurs, députés, colonels, oui. Les sociodémocrates pleurent, le Corriere della Sera change de directeur. La gauche demande qu'on mette les fascistes hors la loi. On verra, oui, on verra. Le chef de la police est félicité pour cette opération courageuse. Eh bien, figurez-vous que quelques temps après, il est mis à la retraite.
Je crois qu'un scandale de ce genre servirait à rehausser le prestige de la police. Le citoyen aurait l'impression de vivre dans un état meilleur, avec une justice un peu moins injuste.
Et bien sûr, ce serait plus que suffisant. Le peuple réclame une véritable justice. Eh bien, nous nous arrangerons pour qu'il se contente d'une justice un peu moins injuste. Les travailleurs crient « Assez d'humiliation ! Halte à la barbarie de l'exploitation !» Nous tâcherons que l'exploitation devienne un peu moins barbare. Nous veillerons surtout à ce qu'il cesse d'en être humilié sans cesser d'être exploité. Il voudrait ne plus crever à l'usine. Soit, nous ajouterons quelques mesures de sécurité et quelques primes pour les veuves. Il voudrait l'abolition des classes. Nous ferons en sorte que l'inégalité soit moindre ou plutôt moins voyante. Il voudrait la révolution. Oh, tout de même, nous leur donnerons des réformes, beaucoup de réformes. Nous les noierons sous les réformes, ou plutôt nous les noierons sous les promesses de réformes. Car même les réformes, nous ne les ferons jamais.
Vous savez à qui il me fait penser ? À Marlon, ce juge inculpé pour outrage à la magistrature.
Oh non, 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 celui-ci est bien pire, il est complètement fou.
Bien sûr qu'il est fou. Ça fait une heure que je vous le dis.
Vous comprenez, le citoyen moyen, il n'a pas envie qu'on supprime les saloperies. Non ! Il lui suffit qu'on les dénonce, que le scandale éclate et qu'on puisse en parler ! C'est ça la vraie liberté pour lui, et le meilleur des mondes ! Alléluia !
Le commissaire Bertozzo saisit la jambe de bois du fou et la secoue.
Regardez un peu cette jambe ! Vous ne voyez pas qu'elle est fausse !
Mais bien sûr qu'elle est fausse ! C'est du noyer, pour être exact !
Ouais, nous l'avions tous compris !
C'est de la supercherie ! Elle est attachée au genou !
Imbécile ! Lâche-le ! Tu vas nous le démonter !
Laissez-le faire, laissez-le faire ! Détachez-la, moi ! Je vous remercie, d'ailleurs, je commençais à avoir des fourmis dans la cuisse !
Mais pourquoi l'interrompez-vous toujours ? Croyez-vous le discréditer simplement parce qu'il n'a pas de jambes de bois ?
Mais non, mademoiselle, c'est pour prouver qu'il est un imposteur, un maniaque simulateur qui n'a jamais été ni mutilé ni capitaine !
Mais qui est-il donc ?
Eh bien, il est tout simplement le fou !
De police, l'agent et le commissaire sportif se précipitent sur Bertozzo et lui mettent la main sur la bouche en l'entraînant.
Pardon, mademoiselle, vraiment, désolé, on le demande au téléphone.
Ils installent Bertozzo au bureau et lui appliquent le combiné du téléphone sur la bouche.
Tu veux absolument nous perdre, imbécile ?
Ne comprenez pas que cela doit rester secret ! Si la demoiselle vient à savoir qu'il y a une contre-enquête, nous sommes perdus !
Quelle contre-enquête ?
On lui remet le combiné à la bouche.
Tu le demandes ? Tu te donnes des airs de tout savoir et tu ne sais rien ! Tu causes, tu fous le bordel !
Je ne fous pas le bordel, je veux savoir !
Chut ! Téléphonez, c'est tout !
Aïe ! Allô, qui est à l'appareil ?
La journaliste qui, pendant ce temps, n'a pas cessé de bavarder avec le faux capitaine.
Oh, comme c'est amusant ! Monsieur le préfet, vous n'avez plus à vous inquiéter. Le capitaine, enfin, je veux dire l'ex-capitaine m'a tout dit.
Que vous a-t-il dit ?
Qui il est réellement ?
Il vous l'a dit ?
Bah oui, c'était flagrant, je ne pouvais plus continuer à mentir d'ailleurs. Elle l'avait deviné toute seule, la petite.
Bah oui.
Vous lui avez au moins fait promettre de ne pas l'écrire dans son journal ?
Bien sûr que si, je l'écrirai. Voilà. Dans les bureaux de la police, j'ai rencontré un évêque en civil.
Un évêque ?
Oui. Pardon de vous l'avoir caché.
Avec un grand naturel, il retourne son col qui devient un collet d'ecclésiastique avec un rabat noir.
Il ne manquait plus que l'évêque. Vous n'allez tout de même pas le croire.
Le commissaire sportif empoigne un gros tampon et le lui fourre dans la bouche.
Tu nous les casses !
Le fou a sorti une calotte rouge et se l'est mise sur la tête avec des mouvements lents et étudiés. Il a défait un bouton de sa veste découvrant une croix baroque d'or et d'argent, une production Rancati. Enfin, il a passé un gros anneau avec une énorme pierre violette.
Oh, permettez-moi de me présenter. Père Augusto Bernier, désigné par le Saint-Siège comme observateur de liaison auprès de la police italienne.
Oh non, liaison avec la police maintenant.
Après les cailloux qu'on a lancés contre le très Saint-Père en Sardaigne et tout dernièrement à Castel Gandolfo, vous comprenez, il est de notre devoir en tant que légat responsable de l'Église de prévenir, d'avoir des contacts.
Ah ça non, 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 c'est trop énorme. Voilà l'évêque policier à présent.
Le commissaire lui remet le tampon dans la bouche et l'entraîne à l'écart.
Nous le savons bien, nous aussi, c'est de la frime. Mais c'est pour nous sauver qu'il est devenu évêque, tu comprends ?
Pour nous sauver, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es pris d'une crise mystique, ton âme a sauvé !
Ça suffit ! Baisse son anneau !
Ah non, 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 pas l'anneau ! Ah bon Dieu, pas l'anneau, je refuse ! Vous êtes tous devenus fous, quoi ! C'est contagieux !
Vous ne me croirez pas, éminence, mais quand vous vous êtes écrié tout à l'heure à propos des scandales, le meilleur des mondes, alléluia ! Je me suis fait la réflexion, excusez mon irrévérence.
Oh, je vous en prie.
Je me suis écriée, oh là là, quel style de curé ! Ça ne vous vexe pas, dites.
Eh bien, pourquoi serais-je vexé ? J'ai tenu des propos de curé parce que, figurez-vous, j'en suis un ! Oh.
Bertozzo écrit avec un feutre noir au dos du portrait du président de la République. C'est un mythomane, un fou. Il le montre, prenant soin de se tenir derrière le faux évêque.
Vous saurez que Saint Grégoire le Grand, devenu pape, s'aperçut qu'on cherchait des subterfuges pour couvrir de graves scandales. Alors, il entra dans une sainte fureur et se mit à hurler la fameuse phrase « Nolimus aut velimus, omnibus gentibus, justitiam et veritatem ».
Je vous en supplie, éminence, j'ai été collé 3 fois pour le latin.
Ah, excusez-moi. Alors, il a dit en substance ceci. Qu'on le veuille ou non, j'imposerai la justice et la vérité. Je ferai l'impossible pour que les scandales éclatent de la façon la plus voyante. Ne craignez pas que cette pourriture engloutisse l'autorité, vienne le scandale, car c'est sur lui que repose durablement le pouvoir de l'État.
Mais c'est extraordinaire ! Vous voulez bien me l'écrire là en entier ?
Mais bien sûr.
Le fou se met à rédiger la phrase, librement traduite de Saint Grégoire évidemment, sur le carnet de la journaliste. Et cependant, le commissaire sportif ôte des mains de son collègue le carton avec le portrait du président et le déchire.
Que faites-vous donc ? Vous avez déchiré le portrait du président ? Vous ne savez pas que c'est un délit ? Qu'est-ce qui vous a pris ?
Mais monsieur le préfet, il écrit de ces choses !
Je partage votre opinion sur la manie qu'il a d'adresser au peuple des messages mélodramatiques, mais ce n'est pas une raison pour aller jusqu'à saccager son portrait ! Vous devriez avoir honte !
En regardant par-dessus l'épaule de l'évêque, la journaliste examine attentivement le sens de la phrase de Saint Grégoire.
En somme, s'il n'y a pas de scandale, il faut en inventer, car c'est un moyen merveilleux pour consolider le pouvoir en soulageant la conscience des opprimés.
Exactement. C'est même, je dirais, la catharsis qui purge les conflits. Et vous, les journalistes indépendants, vous en êtes les prêtres révérés.
Révérés ? Oh, pas pour le gouvernement, en tout cas, qui s'empresse de nous la boucler quand nous découvrons un scandale.
Oh, pure folie de sa part. Mais nous avons un État bourbonien précapitaliste, oui. Regardez les pays évolués comme l'Europe du Nord. Vous vous rappelez le scandale Profumo en Angleterre ?
Oui.
Le ministre de la guerre pris dans un tourbillon, prostituée, drogue, espionnage. L'État s'est-il écroulé ?
Non.
La bourse ? Pas du tout. Au contraire, jamais la bourse et l'État n'ont été aussi solides qu'après ce scandale. Les gens se disaient, sans doute il n'y a pas de pourriture, mais elle remonte à la surface. Nous pataugeons dedans et même nous en avalons. Mais personne ne prétend que c'est du thé au citron et c'est l'essentiel.
Je proteste ! Autant dire que le scandale est l'engrais de la social-démocratie !
Comme vous dites, le scandale est l'engrais de la social-démocratie. Je dirais plus, le scandale est le meilleur antidote au pire des poisons qui serait l'éveil de la conscience populaire.
Bravo !
On s'indigne... Un petit rototo qui vous soulage. Notez bien que tout le monde accepte le système. Tout le monde accepte le système. Non seulement les exploiteurs, mais aussi les exploités.
Oh les mains ! Dos au mur où je tire !
Dis donc, Bertozzo, tu es devenu fou ?
J'ai dit « Oh, les mains !» Vous aussi, monsieur le préfet, je vous préviens que je ne réponds plus de moi !
Oh, mon Dieu !
Du calme, Bertozzo ! Et
restez calme vous-même, monsieur le préfet, soyez sans crainte ! Vas-y, toi, l'agent qui fout rien depuis le début de la pièce !
Oui !
Palais un par un au porte-manteau, dépêche-toi !
Ah bon ?
Ne regardez pas avec cet air-là, hein. Vous comprendrez bientôt que c'était le seul moyen qui me restait pour me faire entendre !
Moi aussi ?
Mais oui, vous aussi, mademoiselle, dépêchez-vous ! Et toi, maintenant, mon cher salaud de traître de Frégoli, tu vas dire à ces messieurs qui tu es réellement. Sinon, comme j'en ai marre, je te tire dans les gencives, compris ? Silence, vous autres !
Volontiers, mais je crains que... Peut-être, si je ne leur dis comme ça en parlant, ils ne vont pas me croire.
Tu voudrais peut-être leur chanter, bouffon ?
Il suffirait que je leur montre mes papiers, mon dossier psychiatrique.
D'accord, où sont-ils ?
Là-bas dans le sac.
Allez, mène-toi, va les chercher, fais pas de blague, hein, je te descends.
Les voilà !
Quel dommage, j'avais en tête un si bel article, il m'a tout démoli.
Moi, c'est le fou que je vais démolir, moi. S'il te plaît, Bertozzo, libère-moi de cette menotte.
Tu veux vraiment te faire saquer ? Chez nous, tu devrais le savoir, les fous sont comme les vaches sacrées aux Indes. Si tu y touches, on te lynche.
Assassin ? Un fou criminel ? Il se fait passer pour juge ? La contre-enquête, quand je pense au coup que ça m'a fait !
Ce n'était pourtant pas grand-chose par rapport au bruit que ça va faire maintenant ! Regardez ça ! Comptez jusqu'à 10 ou nous sautons tous en l'air !
Qu'est-ce que tu manigances ? Ne joue pas au con !
Je suis faux ! Je ne suis pas con ! Mesure tes paroles, Bertozzo, et lâche ce revolver, sinon je mets mon doigt sur
Le percuteur essayera plus vite.
Tombez pas dans le panneau, Bertozzo, c'est une bombe désamorcée. Comment pourrait-elle éclater?
C'est vrai, ne tombe pas dans le panneau.
Allons, Bertozzo, toi qui t'y connais, même si tu ne connais pas ta grammaire. Regarde s'il y en a un ou non de détonateur, regarde là. Tu ne le vois pas, c'est un long père acoustique.
Le commissaire Bertozzo manque de s'évanouir, laisse tomber le revolver et les clés des menottes.
Un long père acoustique, où l'as-tu trouvé?
C'est moi qui l'avais. Là-dedans, j'avais même un magnétophone et j'ai enregistré tout ce que vous avez dit depuis que je suis entré. Le voilà.
Que voulez-vous en faire?
Je repique les bandes une centaine de fois et je les envoie partout. Parti, journaux, ministère, Ça au moins, ce sera une bombe.
Voyons, vous ne pouvez pas faire ça, vous savez fort bien que nos déclarations ont toutes été faussées par vos provocations de faux juges.
Oh, ce qu'on peut s'en foutre, l'important est que le scandale éclate. Nolimus, out Felimus, et que le peuple italien, lui aussi, devienne moderne et social-démocrate, et puisse enfin s'écrier, oh, nous sommes dans le fumier jusqu'au cou. C'est vrai! C'est vrai! C'est justement pour ça que nous marchons la tête haute!